Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks, terrorist states.
Tu fais durer le plaisir en 2013, toi.
Eh ouais, carrément. Et oui, 2013, première année de l'année 2013 pour cette 153e divergence numérique. Bonjour Pascal.
Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous.
Et bonjour aux auditeurs de Radio Escapade qui nous écoutent sur leurs fréquences multiples et variées.
Exactement, 104 points pour Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 pour La Salle, 103.3 pour Le Vigan et Ganges.
Un sommaire pas radicalement chargé, on a désiré faire une émission plutôt aérée. Il y aura une petite interview de Pascal Arnoux, présidente Montpellier Libre, qui viendra nous parler de la 5e Carto Party qui a lieu le samedi 19
janvier 2013 à la Maison pour tous Léo Lagrange à partir de 14h.
Voilà, on en parlera, puis il nous parlera aussi un petit peu de son ressenti par rapport au dossier RMLL 2014 à Montpellier qui a été accepté par le comité des rencontres mondiales du logiciel libre. Et puis on aura pas mal de musique du coup.
Oui, avec un label anglais, Dusted Wax Kingdom, et avec une formation Metaphorse. Qui eux sont des Allemands et qui ont sorti leur premier LP Orient 7, justement tout chaud le 7 janvier 2013.
Voilà, donc on en écoutera pas mal d'extraits et puis on aura aussi quelques petites new news à vous distiller. Et on va commencer comme de bien entendu, et on leur souhaite une belle année d'ailleurs, Pascal, des vœux peut-être pour 2013.
Et oui, grand salut, grand chapeau quand même pour tenir le rythme de cette revue de presse hebdomadaire.
Voilà, d'autant qu'ils l'ont enregistré dans des conditions encore plus spartiates que d'habitude, mais le son était assez correct. Donc on les écoute tout de suite et on se retrouve dans une petite 16aine de minutes.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 1 de l'année 2013. Salut Manu.
Salut Luc, bonne année.
Ouais, c'est ça, toi-même.
Allez, bonne année Nico.
Ouais, salut Luc et bonne année à tout le monde.
Le sommaire, mon cher Manu.
Alors, 7 jolis articles avec une grosse masse sur ZDNet. Donc, on va vous parler des entreprises et des technologies du libre, l'économie locale, la Slovénie et la neutralité du net, l'open data et la Bretagne. La Bretagne est en fait, après cela, donc Windows 8 et l'installation GNU Linux, l'Égypte et un contrat qui embête les gens du logiciel libre. Et pour finir, un bon petit article sur le savoir-vivre et Richard Stallman.
Nous devrons chercher une autre expression.
C'est toujours amusant et il y a de quoi faire.
Et oui, donc le journal du net, les technologies open source choisies par les géants du web, un article par Antoine Crochet-Damet.
Un gros article, quasiment un dossier de 9 pages.
Ouais, c'est des fiches quoi.
C'est des slides, on va dire, c'est un peu une présentation de tous les gros de ce monde en matière d'internet et de leur utilisation des solutions open source et libres. Donc ça va de Google, Facebook, Twitter, Yahoo, ça liste tous les services utilisés, donc essentiellement serveurs d'applications, serveurs web, bases de données et systèmes distribués avec Hadoop en particulier.
Donc Hadoop c'est quoi? Parce que moi qui suis un noob, je connais pas du tout.
Base de données, big data on dirait, NoSQL aussi, c'est un des autres termes qui va bien, et c'est développé en grande partie par la fondation Apache.
Oui, bah voilà, donc si vous avez rien compris c'est normal.
Tout ça c'est parce que en fait, voilà, quand vous allez voir votre directeur informatique, votre entreprise, vous pouvez leur dire, bah attendez les gars, là, regardez tous les gros, tous les énormes qui sont sur le web, que vous connaissez parce que c'est des marques et c'est des noms.
Et qui ont des infrastructures monstrueuses en plus.
Les infrastructures, ça c'est sûr que c'est pas à la portée de tout le monde. Bah, les images parlent d'elles-mêmes d'ailleurs dans l'article. Mais en même temps, ça montre bien que aujourd'hui, le futur et les grosses applications tournent essentiellement avec du libre et de l'open source.
Donc du buzzword. Des jolies petites images.
Ce qui est intéressant aussi, hein, d'un point de vue économique, et on avait parlé de ça avec des gens de chez Yahoo, je crois, il y a quelques années, c'est que j'ai remarqué que sans logiciel libre, des boîtes comme Google, Yahoo, mais là, bon, on a Twitter, des trucs comme ça, n'existeraient pas. Parce que s'il fallait qu'ils payent une licence par base de données et par système d'exploitation de serveurs qu'ils ont, jamais ils pourraient décoller et monter une activité. C'est juste pas possible, ce serait 100 fois trop cher.
Enfin, non, mais ça ferait plaisir à Larry Ellison, par contre. Pense à Larry Ellison, ce pauvre milliardaire, oui, non, mince, mais... il est bien embêté avec ses licences Oracle.
Ça, c'est une belle démonstration de ce que le logiciel peut faire d'un point de vue économique, c'est qu'on abaisse le coût. Bon, il n'y a pas que la question du coût dans le logiciel libre, mais elle est là. Et du coup, il y a des trucs qui existent, qui se construisent, qui se développent. Et ce système de « on met des verrous partout, il faut tout payer », ben, ça, c'est un frein, finalement. Et ben, ces boîtes qui font du libre, elles ne sont pas sur la paille pour autant.
Et puis en plus, il y a de la mutualisation, même en dehors du coût de développement, il y a le coût de développement mutualisé. Parce que là, vous allez bien voir, sur les 9 slides, il y a beaucoup de technologies qui se retrouvent d'un concurrent à l'autre. MySQL par exemple ou Hadoop, et donc ça évite que chacun développe ses solutions de son côté et on se retrouve avec des méga solutions bien gaulées plutôt que plein de petites solutions qui fonctionnent pas.
Oui, on peut vraiment parler d'un bien commun.
ZDNet.fr, la Slovénie légifère sur la neutralité de l'internet, par Thierry Noisette. Donc ça nous parle de Slovénie et de neutralité du net, c'est ça ?
Et oui, la neutralité du net, c'est-à-dire le fait que le postier n'a pas vraiment le droit d'aller regarder votre courrier et qu'en fonction de vous, de votre destinataire ou du contenu, il va vous rediriger, il va vous faire payer différemment et peut-être même il va aller regarder, il va aller modifier ce qu'il y a dedans.
Et oui, et donc l'article rappelle qu'avant la Slovénie, c'était les Pays-Bas qui ont marqué ça dans leurs droits et qu'en France, bah, on est toujours en train de se tâter en se demandant si oui, si non. Il cite Laure de la Raudière, qui est une députée pour qui ces sujets sont importants. Ça va guère plus loin. On voit qu'en tout cas, l'idée avance en Europe et c'est très bien. Ça mettra peut-être la pression sur les pouvoirs publics français.
La Belgique notamment, qui est en pleine discussion sur le sujet. Et il faut croire qu'il y a d'autres pays, les pays scandinaves notamment, qui en parlent et en reparlent. Donc ça pourrait avancer même au niveau européen un jour.
Ouais, bah, faudrait peut-être que les gros pays se bougent, parce qu'au niveau de l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France, c'est complètement en retard là-dessus. Donc c'est un peu un carnage.
Tout Linux, logiciel libre et économie locale, le déni de bon sens de Philippe Scofoni. Sachant que Tout Linux a l'air d'avoir des petits problèmes peut-être sur leurs articles.
Moi,
et là,
j'ai suivi le lien, j'ai pas vu l'article. Alors,
voilà, bah, ils ont plus d'articles depuis le 14 décembre. Je ne sais, mais en tout cas, on a retrouvé l'article et le pointeur est sur Linux.fr. Donc vous pouvez aller sur ce qui est en fin de compte le blog de Philippe Scofoni, un des grands du libre, parce qu'on le retrouve souvent. Et qui discute de beaucoup de bonnes choses, et là il parle d'économie locale.
Sans doute, mais comme je n'ai pas lu l'article, puisque je ne l'ai pas vu, je n'en dirai rien du tout.
C'est moche, parce que tu as vraiment raté quelque chose. Et notamment, il parle d'appels d'offres de marché public et des sommes colossales qui sont dispersées à être redonnées à d'autres pays, notamment les États-Unis.
Donc là, l'exemple qu'il donne, c'est un appel d'offres français qui a été publié récemment. Donc je vais vous lire l'intitulé exact. C'est le projet consiste à migrer les postes informatiques du parc de la ville de Villeurbanne vers Microsoft Windows 7 et Microsoft Office 2010. Donc ça, théoriquement, c'est complètement illégal, puisque ça cite des marques, des brevets, des solutions techniques propriétaires. Donc normalement, ils n'ont pas le droit, ils devraient juste s'arrêter à migrer le parc informatique, mettre en place une solution de bureautique ou d'OS. Et le problème, c'est que cet appel d'offres-là, il n'y a pas grand monde à le remettre en cause, parce que bah, il faudrait... Voilà, le besoin d'intérêt d'agir, c'est qu'une société d'open source pourrait pas se rebeller contre ça si elle répondait pas à l'appel d'offres. Donc ça tourne un peu en rond.
De façon générale aussi, quand on a une boîte et qu'on vise à travailler avec les collectivités, on évite de les fâcher.
Voilà,
et donc quand on pète un appel d'offres, un peu de chance d'être pris, et les collectivités locales, il n'y en a pas tant que ça, donc elles discutent entre elles. Donc la réputation, elle est quand même vite faite. Donc soit les gens font... Et je crois qu'on a vu un cas dans la revue de presse il y a un an au moins, d'une boîte qui avait effectivement mené une opération et de ce type-là, mais qui disait qu'elle faisait l'essentiel de son activité à l'exportation et qu'ils n'en avaient rien à foutre et que du coup ils avaient rué dans les brancards. Mais les boîtes qui vendent du service aux collectivités, ils peuvent pas vraiment aller hurler sans quoi ils vont se faire sortir.
Alors en plus, en dehors du problème de la légalité ou pas de l'appel d'offres, il y a le problème de l'économie que ça génère derrière. Aujourd'hui, il y a des chiffres d'affaires qui sont estimés à 2,5 milliards d'euros et qui partent en fait dans la nature, parce que... dans la nature à l'étranger, et surtout dans des sociétés comme Microsoft, qui n'apportent absolument rien à l'économie locale française.
Ce, grâce à de beaux petits montages, en passant par l'Irlande et les sociétés sur l'île des Caïmans.
Ouais, c'est des exemples qu'ils donnent. Voilà, il n'y a même pas 1% qui repart entre le chiffre d'affaires réalisé en France et les parts d'impôts, on va dire, payées par ces sociétés-là, il n'y a même pas 1%. Et donc l'open source permettrait d'accélérer, d'injecter de l'argent dans l'économie locale plutôt que de l'envoyer à l'étranger.
Oui, hein, là il parle carrément que 100 euros investis dans le logiciel libre égale à 100 euros dans l'économie locale. Peut-être pas tout à fait le cas parce qu'il y a des développements qui peuvent être refaits par ailleurs dans d'autres pays, mais globalement c'est quand même vraiment l'idée. Ouais,
c'est incomparable.
Voilà, et ça change tout, et donc on encourage et on pousse dans ce sens-là. J'espère qu'on sera entendu.
Agence Bretagne Presse, une large ouverture des données publiques, open data, pour plus de démocratie en Bretagne. Un article de Christian Rogel. Alors là...
Ah bah là, la Bretagne, mon pays natal. Donc la Bretagne qui est pour une fois en avance sur tout le monde, qui a commencé à publier ce qu'on appelle l'open data. Donc ça va être les plans de métro, ça va être les horaires, tous les horaires de passage, tous les services publics qui existent. Et c'est mis à la disposition du public, on en fait ce qu'on veut, sans restriction commerciale ou quoi que ce soit. Donc la Bretagne qui commence à... Donc il citait la ville de Rennes, la ville de Brest...
Plein de choses qui se passent en Bretagne. Brest a vraiment été une des premières villes à s'y mettre, et des trucs notamment autour d'OpenStreetMap qui se font. Et bon, il y a la ville de Rennes également qui est citée, avec le portail de Keolis qui est l'exploitant local. Mais en l'occurrence, il s'avère que je connais assez bien ce portail et ces données-là. Et voilà, il y a l'envers de la médaille qui n'est pas cité par l'article, hein, mais voilà, les données, ça change assez souvent. Et là, on est sur un mode où il les change, enfin, il donne les données pour 3 mois et il donne les nouvelles données 4 jours. Sachant que dans les 4 jours, il y a 2 jours de week-end, avant que les données d'avant soient obsolètes. Donc du coup, c'est quand même super compliqué, si on imagine une boîte qui veut faire du business avec, c'est quand même très compliqué de faire ça, surtout qu'ils peuvent changer ça quand ils veulent, ils peuvent modifier à l'occasion les structures des données et tout ça. Donc on est encore loin, et c'est une des problématiques de l'open data pour son exploitation, on est encore loin, en tout cas dans ce cas-là, d'avoir un truc... qui roule tout seul, quoi.
Moi, j'apprécie, c'est le rapprochement avec la démocratie, parce qu'effectivement, les administrations, les collectivités donnent des données à leurs citoyens, et ils utilisent pour ça, globalement, c'est l'Open Database License, donc ODBL, et qui a l'air assez sympathique, et qui se rapproche vraiment des données, enfin, des choses qu'on trouve dans le logiciel libre.
ZDNet.fr, installer Linux sur un PC Windows 8. Toujours la galère par Thierry Noisette.
Windows 8, c'est un truc super qui vient de sortir, non ?
Bon, on en a parlé avant Noël, hein, plusieurs fois. Donc Windows 8, la nouvelle version qui change tout, qui pète tout, et avec surtout plus de BIOS, c'est ce petit machin qui démarre et qui permet vraiment de démarrer la machine. Et donc en fait un nouveau système qui permet à Windows d'interdire l'installation de logiciels qu'ils n'auront pas validé, étiqueté, estampillé.
Ouais. Donc, on en avait déjà parlé, c'est le fameux Secure Boot. Enfin, de Secure, il n'y a pas vraiment grand-chose de Secure. C'est celui qui paye, qui aura le droit de s'installer, on va dire. Et le problème, c'est que c'est censé pouvoir être désactivé par l'utilisateur. On est censé pouvoir quand même installer quelque chose à côté. Et dans les faits, soit c'est complètement planqué au fin fond d'un menu obscur, dans des choses qui sont complètement inaccessibles aux utilisateurs.
Et non standardisées.
Voilà,
il faut quand même citer le gars qui est cité dans l'article, hein, Steven G. Vaughan Nichols, qui a dit, bon, on parle beaucoup de ce truc-là, ben moi, je mets les mains dedans, j'essaye d'installer du GNU Linux sur un système acheté avec un Windows 8, et conclusion, c'est la grosse, grosse galère, c'est soit extrêmement difficile, soit impossible, et il a essayé également sur des tablettes, et là, il a dit, sur les tablettes, c'est même pas la peine d'y penser.
Moi, à mon avis, c'est une très bonne stratégie de la part de Microsoft. Ils ont fourni un système d'exploitation qui est, semblerait-il, merdique, et qui vraiment embête tous les nouveaux qui se mettent dessus. Donc il n'y a rien de tel que de bloquer et d'empêcher qu'on installe autre chose sur les mêmes ordinateurs. Là, ils peuvent vraiment être tranquilles, il n'y a pas de problème de concurrence. Franchement, bravo, moi j'applaudis, bonne idée de leur part, non ?
Ça serait vrai si c'était légal ce qu'ils faisaient, parce qu'il y avait les problèmes de ventes liés aujourd'hui, théoriquement on ne devrait pas avoir le droit d'acheter un PC avec Windows 8, enfin en tout cas pas comme on s'est réalisé aujourd'hui. Et si on suivait la loi à la lettre, n'importe qui pourrait aller dans son grand magasin, demander un PC sans Windows et pouvoir installer ce qu'il veut à côté. Dans les faits, c'est clairement pas le cas, et ça pose énormément de problèmes, et aujourd'hui le monopole qui est encore plus visible avec Windows 8 repose uniquement, en tout cas en France, sur des non-applications de la loi.
Rue 89, Égypte, un contrat pour Microsoft énerve les défenseurs du logiciel libre, un article de Tarek Arm. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à des histoires de Tunisie dont on a vachement parlé l'année dernière et depuis les 2 dernières années.
Et ça s'étend.
Et là c'est en Égypte, hein, où actuellement effectivement en Égypte beaucoup de révoltes, de mécontentements, et on retrouve finalement un thème très proche de tout ce qu'on a pu entendre sur la Tunisie. Un contrat de renouvellement de 40 millions de dollars ou d'euros, je ne sais plus.
Dollars.
43 millions, et ça fait grincer des dents là-bas.
Bah, ça fait grincer les dents, parce que d'ailleurs c'est un peu leur slogan, mais on donne 43 millions à Microsoft, mais où va l'argent bah, quand on a besoin pour aider les pauvres ou la famine dans ces pays-là.
Et avec 43 millions de dollars, voilà. On pourrait faire beaucoup avec de l'open source, c'est leur slogan en anglais.
Et ça rejoint un peu l'article précédent, c'est avec 43 millions de dollars injectés dans l'économie locale, on pourrait aider beaucoup plus la population que d'aider Microsoft qui fait déjà des bénéfices records. Donc ça passe assez mal, la pilule passe assez mal.
Voire même permettre de développer une activité informatique égyptienne, locale, plutôt que d'aller acheter à l'étranger sans développer l'activité de son pays.
Bon, moi je serais un peu cynique, hein. Après tout, les États-Unis donnent déjà tellement d'argent à l'Égypte, c'est logique que l'Égypte leur redonne un petit peu quand même, les gars.
Et d'ailleurs, pour faire le parallèle avec la France, il y a une question qui a été posée aux députés, où on demande justement en France combien partent exactement dans les caisses de Microsoft tous les ans en licence, et on attend toujours la réponse.
On l'attend impatiemment.
On l'attend impatiemment.
ZDNet.fr, Savoir Vivre, accueille Richard Stallman, Embûche et Impératif, un article de Thierry Noisette.
Savoir vivre, ouais.
Ouais, ça, c'est vrai que le titre va assez bizarrement avec le personnage.
Comment ça, vas-y, explicite.
Bah, disons qu'il a certaines. D'ailleurs, l'article le qualifie clairement d'autiste. Il a certaines petites manières qui font que, bon, dans le grand public, ça passe assez mal. Bon, quand on le connaît, faut le connaître avant de juger le personnage. Mais il donne l'exemple de personnes qui se curent les doigts de pied en pleine conférence publique ou qui va commencer à lire ses mails en plein milieu d'un dîner. Bon, c'est un peu bizarre.
Voilà, donc on a toute la liste de ce qu'il faut faire, ne pas faire quand on accueille Richard Stallman.
Oui, parce qu'en gros, il s'agit d'une liste que lui-même a constituée, ou son assistant, il me semble, a constituée au fil des années. Et Dieu sait que ça fait des années qu'il transite dans le monde entier, et il a besoin de dire comment on doit l'accueillir. C'est normal quand même, les gars.
Bah oui, mais en même temps, c'est pas facile. Enfin, je veux dire, bon, c'est un personnage, on est certain qu'il a le fameux syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme de haut niveau, qui doit pas être facile à vivre nécessairement, mais il passe beaucoup de temps sur les routes, dans l'air et tout, et c'est pas facile. Je veux dire, quand on fait un déplacement une fois de temps en temps hors de chez soi, ça va, mais quand on y passe la moitié de son temps, ça commence à devenir difficile.
Bah, ça va quand même vachement loin, il y a quand même plusieurs pages, je pense qu'on pourrait en écrire un roman.
Non mais c'est rigolo, c'est assez rigolo.
C'est très marrant, c'est très marrant, et c'est même à côtoyer. Mais bon, voilà, il peut pas dormir à plus de 22 degrés, il voudra...
25 max.
25 max, si, un humidificateur.
Il ne veut pas boire de Coca-Cola, parce qu'il boycotte.
Coca-Cola, il n'ira pas dans un hôtel s'il doit donner son nom, il n'utilisera pas un PC s'il n'a pas une connexion à Internet et pas à web.
Il y a un truc qui n'est pas dans l'article dont on avait parlé, il ne faut pas lui offrir de perroquets.
Pas lui offrir de perroquets.
C'est important parce qu'en fait, il adore les perroquets, par ailleurs.
Mais après, c'est pas quoi en faire.
Bah oui, parce qu'on lui en a offert un une fois et effectivement, voilà. T'es bien embêté et il l'a mis dans ses articles.
À son crédit, il faut quand même dire une chose, c'est que c'est quelqu'un donc qui se déplace énormément. C'est une personnalité importante et qui continue à accepter d'aller dormir chez l'habitant. Et ce qui permet à des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens, qui organisent des rencontres et tout, de le faire venir, moyennant tous ces efforts-là. Mais je pense que c'est très très loin d'être le cas de la plupart des conférenciers de ce calibre qui vont exiger l'hôtel tant d'étoiles et tout, et si on n'a pas le budget, ben on se brosse, il viendra pas.
Oui, parce qu'il faut pas oublier, c'est un orateur hors pair, vous pouvez l'inviter, globalement il vous fera une conférence qui tient d'un bloc sur 3 heures, il est intéressant et faut pas hésiter.
Très bien, et ben merci tout le monde, bonne semaine à vous tous.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et merci à eux. Oui, alors l'histoire ne dit pas si c'est le fameux perroquet qui avait été offert à Richard Stallman qui lui a appris à chanter. On ne saura pas. Ceci expliquerait pour peut-être cela. Non, mais ils ont bien raison. Richard Stallman est un orateur extraordinaire, dont l'excellence égale la bizarrerie en dehors de ses conférences. On fera pas
quand
plus
il est debout, ça va pendant ses conférences. Assis, il peut se passer plein de choses.
Plein de choses bizarres. On va partir sur Mars, non pas pour voir les dernières images du rover qui circule en ce moment, mais pour écouter le premier extrait de cet album de Metaphors, un collectif hip-hop, trip-hop, avec ici un featuring de Johnny Fisher, et ça s'appelle Live from Mars, et c'est en licence Creative Commons.
By NC and D. Thank you.
Listen, sounds are coming from the opposite direction.
Et oui, les sons viennent du côté opposé. Un morceau assez court qui sert un petit peu d'introduction à cet album qui s'appelle Orion 7. Je ne sais pas si c'est le nom d'une planète. En tout cas,
une galaxie.
Voilà, c'est un collectif emmené par Astronaut et Dario Scenario qui pour ce qui le concerne, est de Francfort. Donc un collectif basé en Allemagne. Leur album sort après 2 ans de travail pour le faire. Et puis, n'en pas douter, ils tourneront.
Sur le label Dusted Wax Kingdom, label anglais.
Voilà, dustedwax.org pour l'adresse du site du label. Quelques petites nouvelles avant de réécouter un petit peu de musique et de parler cartoparty avec, bien entendu, sur linuxfr.org, car c'est souvent là qu'il s'y passe des choses. Des nouvelles des dernières versions de Firefox et Thunderbird, Pascal.
Oui, donc Mozilla a fait donc ses vendanges et la cuvée 18 de Firefox et Firefox Mobile semblent bien réussis. Thunderbird nécessite un petit peu plus d'affinage, nous dit LinuxFR. Alors, on peut avoir un nouveau moteur JavaScript qui est YonMonkey qui fait son apparition dans Firefox 18. Une prise en charge préliminaire de WebRTC. Le grand truc aussi dans les navigateurs maintenant, c'est le WebSocket. Est-ce qu'ils sont compatibles WebSocket ou pas? C'est les nouvelles avancées là, dans les navigateurs.
C'est pas pour mettre des chaussettes en naviguant sur Internet.
Non, faire des choses client-serveur assez intéressantes, tout comme l'HTML5, hein, précisons-le aussi, à supporter pleinement, parce que ça c'est côté navigateur. On peut noter aussi un nouvel algorithme de zoom pour le HTML qui est utilisé, qui devrait permettre d'avoir une meilleure qualité d'image. Il y a aussi... on va dire l'événement au sens JavaScript du terme, Mostouche, qui est remplacé par la version standardisée du W3C, donc un petit peu plus conforme aux recommandations du code. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que des fois, on s'aperçoit que les navigateurs se prennent quelques facilités à interpréter le code, et donc après, les codes sont adaptés, qui sont adaptés et obligés de coder pour tel navigateur ou pour tel l'autre parce qu'il fait pas telle fonctionnalité. Ça c'est absolument horrible pour les développeurs de sites, alors qu'il y a des standards qui existent, donc autant utiliser les standards et puis autant donc lire les standards. À noter aussi un bug vieux de plus de 12 ans dans Firefox qui a été enfin corrigé, qui s'agit d'empêcher en fait le chargement des ressources comme des images ou des scripts JavaScript non chiffrés quand on consulte des pages cryptées. Vous savez que dans certains sites, le site est sécurisé HTTPS. Donc la liaison est sécurisée entre la page initiale et votre navigateur. Par contre, dedans, il y a des éléments qui sont non sécurisés, et donc il y avait des messages d'avertissement en disant cette page contient des éléments non chiffrés. Êtes-vous sûr de pouvoir continuer dessus, parce que justement on est sur un site sécurisé comme un site bancaire, et dedans on n'a pas toutes les images sécurisées, donc on a des flux non sécurisés et on ne sait pas trop quels sont ces flux qui sont non sécurisés et ceux qui le sont. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. On peut noter aussi un changement d'onglet un petit peu plus rapide, d'avoir plusieurs pages en même temps à l'intérieur donc de l'application. Et pour la partie mobile, intégration avec Google Now, qui est une partie des outils Google, et etc. Par contre, pour Thunderbird, il n'y a pas encore de version 18, mais une version 17.02 à la place, avec quelques corrections de bugs.
Voilà, ça c'est pour tous ceux qui utilisent le navigateur Firefox et le client Mail Thunderbird, ce qui est mon cas personnellement, entre autres outils.
En tout cas, je recommande ça sur les mobiles, ça passe très très bien. Déjà, le code est beaucoup plus libre que des fois le navigateur qui est livré avec le mobile. Et voilà donc.
Et puis côté audiovisuel, ce mois de janvier 2013 verra eh bien, l'éditeur de la solution open source de gestion de photothèque Phraseanet, Alchemy, animer plusieurs rendez-vous, les Digital Expertise Days, pour échanger avec la communauté sur les problématiques d'exploitation des médias dans les entreprises, des démonstrations de cette solution libre ainsi que d'outils complémentaires pour gérer photos, vidéos ou autres contenus multimédia seront proposés pendant ces sessions qui auront lieu à Toulouse ce 15 janvier, à Genève le 22 janvier, à Lyon le 29 janvier et à Bruxelles le 5 février 2013. Des événements qui sont gratuits, mais il faut s'inscrire en allant eh bien, sur les différents sites comme Alchemy avec un Y, alchemy.fr ou encore phraseanet.com, donc un outil très puissant pour gérer des collections de photos ou autres fichiers multimédia. Allez voir la démonstration, c'est assez impressionnant. Et puis voilà pour ces petites news. Oui, Pascal.
Cet outil est utilisé notamment maintenant par justement l'université de Montpellier 2 pour gérer sa photothèque.
Ce qui est quand même bien.
Ce qui est bien.
Un bon point sera décerné à l'UM2 qui d'ailleurs accueillera les rencontres mondiales du logiciel libre en 2014.
Tout à fait.
On aura le temps de vous en reparler de ce que vous voulez savoir. What you wanna know, c'est le titre de Métaphores qu'on va écouter, toujours extrait de cet album Orion 7. C'est sorti en 2013. Si ça vous plaît, eh ben, allez donc faire un tour sur le site de Divergence. Vous retrouverez tous les liens pour aller voir cet album. Si vous voulez, on vous la redit, hein, dustedwax.org.
Yeah. What? What do you want to know? How to flow? Or how much it will cost you? Tell me exactly what you want to know. Why it rains and pours? Or how to get up from the couch?
How to dance in,
how to dance in the snow? Or why it's hotter in the south? 'Cause what you're asking for is what it's all about. When it's all for sale and no alphabet's enough 'cause every letter's sold, what else can we ask for that comes for free? What was left untold? Who knows where it leads you? But listen to my plan that needs no map, but teaches you exactly how to reach Wonderland. 'Cause me and my gang have come a long way to fill up your brain with a whole new slang. So close your eyes but don't take another nap. Give me your best, 'cause Metaphors and Charlie Bless smell every trap. Need no applause to make it worth the laugh. So tell me again what you wanna know. Why it rains and pours, or how to get up from the couch. How to dance in the snow, or why it's hotter in the south. 'Cause knowing what you want is what it's all about.
Tell me what you wanna know.
But before you start, groove to these bars. Relax some more and let's make your cheeks glow like a pair of stars. Brighter than the gold around your fingers and neck. 'Cause less is more and for sure we dig deeper than you would expect. So don't vote for us if you're scared of being free. 'Cause what we have to say stings like a bee and includes a guarantee of more than a try. Not just another brand everybody likes 'cause we're here to win something no one can buy. Ooh, ooh. Tell me one last time what you wanna know. Why it rains and pours, or how to get up from the couch. How to dance in the snow, or why it's hotter in the south. 'Cause your very own way is what it's all about.
Open your eyes, stop searching shapes in the sky. 'Cause wouldn't it be nicer to walk on these clouds instead of driving new cars and paying off your house? Don't try to deny. You'd like to jump overseas. This speed is the key for the door to wherever you wanna be. For the door to wherever you wanna be.
So what's the deal?
what's the deal? Which way move your mirror? Does your life look like a pretty still in a plastic frame? Then don't be ashamed to raise your hand for the thrill of endless space that runs through your veins, but it's not gonna fit until you close up shell. Don't bite your tongue, wait till we blast. Ain't no time for politeness, show us your teeth. Let's be right back. What you wanna know? Tell me. And if you still wanna know what tomorrow will bring, just let it go. Cause all I can tell you is we just don't know.
What You Wanna Know avec un featuring de Charlie Bless et Jules Jeffries, c'est Métaphorce. L'album s'appelle Orion 7 et on le retrouve sur dustedwax.org. C'est en Creative Commons.
La sortie numéro 192 de ce net label quand même. Hein.
Quand même, hein, les petits gars, ils travaillent.
Ça c'est bien, j'aime bien ce concept. T'as un net label qui est posé là en Angleterre et puis t'as plein d'artistes qui gravitent autour de ces net labels et puis des fois tu retrouves même les artistes sur d'autres net labels parce qu'il n'y a pas forcément d'exclusivité à déposer. Ils sont très souples dans les publications, donc tu peux très bien un coup être chez un autre chez l'autre. Ça c'est bien, voilà.
Et pour des productions d'une qualité dont vous venez d'apprécier le niveau, on passe au côté cartographie. Il n'y a pas qu'à Montpellier ce 17 janvier que l'on pratiquera. On en parlera aussi bien loin, puisque ce sera en Belgique, à Mons. Ce sera le 17 janvier avec un intervenant, Didier Villers, qui viendra parler du projet collaboratif OpenStreetMap, qui, si vous l'ignorez encore, liaison dangereuse, vise à fournir une cartographie du monde sous licence libre, et ce depuis 2004, avec un niveau de maturité qui lui permet de soutenir la comparaison avec ses principaux concurrents propriétaires comme Google Maps, Bing Maps, Yahoo Maps et autres maps. Machin. Néanmoins, OSM dispose d'atouts supplémentaires avec une très forte réactivité due à sa communauté. Et cette communauté, elle s'exprime à Montpellier depuis 4 éditions déjà, puisque ce samedi 19, ce sera la 5e carte au parti.
D'ailleurs, on peut voir que tu mentionnais d'autres des sites de carto comme Google, Google Maps, etc. Et notamment, on a pu voir que, par exemple, il manquait auparavant sur ces sites-là l'interactivité, la correction. Et en prenant exemple sur OpenStreetMap, en disant là, je peux corriger parce que le nom de la rue est fausse, par exemple, ou rajouter par exemple un commerce, le nommer, et ben on a vu apparaître dans les autres cartographies non libres, justement, le crowdsourcing, tout ce qui est. Voilà.
Et oui, il y a toujours des opportunistes, et puis ils ont raison, hein. Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis et emprunter la voie de la sagesse, comme disait le petit scarabée. Ça va se passer donc ce 19, donc on rappelle, hein, il s'agit de s'inscrire et puis d'aller participer. Après une courte formation, eh bien on peut agir.
Alors en fait, l'inscription est pas obligatoire, mais ça permet d'évaluer le nombre de personnes qui va pouvoir venir.
Oui, on peut se pointer sans s'inscrire au rendez-vous.
Absolument, c'est vraiment ouvert à tous. C'est ça qui est. Et d'ailleurs, Pascal va nous en parler
Un
petit peu plus longuement.
Bien évidemment. Et puis voilà, donc on rappelle, c'est le samedi 19. Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Arnoux, qui est le président de Montpellier Libre. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Gilles.
Alors on est là pour parler bien de la prochaine carte au parti, mais peut-être on va démarrer en faisant un petit crochet case RMLL, car on l'a appris début décembre, Montpellier est sélectionné pour sa candidature aux Rencontres mondiales du logiciel libre 2014. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et puis ça récompense un petit peu le travail de montage de dossier qui a été effectué.
Oui, un travail de fond. Ça fait plus d'un an qu'on est dessus. Une petite dizaine de personnes actives à la confection de ce dossier-là pour les rencontres mondiales. Bon, on a un peu aidé aussi Genève et Bruxelles à, à leur rencontre mondiale.
Voilà, puisque depuis plusieurs années, les équipes d'organisation se chevauchent d'une année sur l'autre, et même à N-2, on pourrait dire, car c'est aussi une façon de garantir, on va dire, la pérennité de ces rencontres, qui, rappelons-le, contrairement au FOSDEM ou à Solutions Linux, ne sont pas des salons commerciaux avec des exposants qui payent des fortunes pour pouvoir poser leurs fesses et dire qu'ils font du libre, que ce soit vrai ou pas vrai. Les RMLL, c'est vraiment un truc qui doit être porté par, on va dire, le bénévolat et la force publique pour garder leur nature à ces rencontres, leur nature non commerciale, ce qui est pas forcément évident en ces temps où l'open source, le libre façon entreprise a un petit peu le vent en poupe.
Ouais, tout à fait. Ouais, faut garder cette conception de l'ouverture à tous, du bénévolat, de volontariat. Et donc là, c'est plusieurs, c'est toute la communauté, hein, c'est la fédération. On s'est regroupé toutes les associations en fédération. Et donc la Fédération régionale des utilisateurs du libre, la FRUL, a posé cette candidature. C'était début septembre. Et pour son premier dossier, il l'a obtenu, a eu satisfaction. Donc c'est vraiment très très bien. On a été très porté par la ville, notamment, faut le souligner, par Michael Delafosse. Donc c'est l'adjoint à la mairie au numérique, donc qui nous a beaucoup soutenus, qui a apporté des lettres de soutien. Peut-être que ça a valu aussi sa petite pierre à l'édifice, mais bon.
Absolument.
Oui, voilà.
Donc ce sera donc début juillet, que dit-il, 2014, et évidemment sur les ondes de Divergence on s'en fera abondamment l'écho, tant au niveau de la programmation, puisqu'on le rappelle, c'est en général de 200 à 300 conférences, c'est plusieurs milliers de visiteurs, c'est un festival des arts numériques libres, c'est plein de choses. RMLL.info pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet événement immanquable. Mais on va parler de ce qui va se passer ce samedi 19 janvier 2013, ce sera de 14 à 19h sur les quartiers Mausson, Audemassan, Celle-Neuve, et c'est la 5e édition des Cartoparties. On rappelle, Cartoparties, c'est chacun est invité avec des professionnels, des amateurs avertis, et puis lui-même à se former pour cartographier de façon très citoyenne autour, là en l'occurrence, du thème de l'accessibilité, cartographier une ville, des rues, des trottoirs, indiquer tout ce qui se peut passer. Et là, dans la grande tradition du libre et les choses ouvertes, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui, très professionnellement, avec des amateurs éclairés, comme je le disais, ou des professionnels, abondent un fonds cartographique sur OpenStreetMap qui permet, là en l'occurrence, de savoir si vous êtes en fauteuil, où est-ce qu'il y a un bateau sur tel trottoir, où est-ce qu'il manque un bateau à tel trottoir pour pouvoir emprunter le passage piéton, chose qui arrive. Une opération qui est aussi soutenue par la ville, évidemment, puisqu'elle en profite directement, mais qui rencontre son succès aussi auprès des gens qui s'y adjoignent. Là, pour cette 5e journée, est-ce que tu peux nous dresser entre la première et la 5e, est-ce qu'il y a plus de monde aujourd'hui qui vient participer à ces cartoparties?
Non, c'est plus ou moins équivalent. Bon, c'est sûr que la première, on a eu un engouement exceptionnel, puisque il y a eu la participation de certains élus. Et puis, comme c'était la première...
Tout ce qui est nouveau.
Voilà, tout ce qui est nouveau. Les gens sont venus, la curiosité. Ils sont venus de villes assez lointaines, même par la suite. Alors que pour cette fois-ci, à la Mausson, c'est quand même assez mitigé. Donc, on attend encore des inscriptions. Les inscriptions sont ouvertes depuis la fin de l'année dernière. Donc c'est sur cartoparties, je crois, /ou-montpel-libre.fr. Donc là, vous pouvez vous inscrire et lire tous les documents. Donc c'est vraiment, c'est une réelle action citoyenne. Et ça se positionne en trois mouvements. Une première partie, c'est toutes les réunions, la sensibilisation, aller dans les quartiers, sensibiliser les commerçants, parce que nous faisons aussi l'accessibilité des commerces. Donc l'entrée, la hauteur, la largeur, et puis après le retournement dans le commerce. Mmh. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la cartopartie. Et la troisième partie, comme tu l'avais souligné, c'est une saisie partie qui aura lieu le 22 de mémoire. C'est le mardi suivant à Kawanga, comme d'habitude, à l'espace numérique de Kawanga.
Voilà, donc ces données, une fois qu'elles sont collectées, et ben après, il faut qu'elles soient concaténées, comme on dit, pour abonder le fond. Et ça, ça permet aussi à ceux qui participent d'apprendre les rudiments de la cartographie, quelque part de se former, eux aussi.
Oui. Voilà, donc on apprend, c'est assez rapide, hein, on apprend en l'espace de milliers, une heure, comment utiliser OpenStreetMap, comment rentrer les données. Donc ça permet de participer à sa cartopartie, mais ensuite d'être acteur du quartier. Par exemple, là, nous allons faire la Mosson le 19 janvier, mais après, nous allons faire un autre quartier environ, tous les deux mois environ. C'est à peu près le rythme. Mais les gens de la Mosson pourront continuer à alimenter cette base de données donc qui alimente l'open data de la ville de Montpellier. Mmh. Donc pourront contribuer à la pérennité des données et à l'actualisation des données. Donc c'est pas fini, hein, c'est pas que le 19. En amont, on a déjà des sensibilisations. Le 19, on fait la carto. Et par la suite, les gens de la Mosson pourront continuer à alimenter cette base de données.
Voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est que ceux qui, fortuitement, complètement par hasard, vont se balader dans les rues, puis vont voir des gens comme ça, qui prennent des notes, etc. Ils vont peut-être venir vous voir. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Là, vous allez leur dire ce que vous faites, puis ils vont trouver ça super cool, et puis peut-être qu'ils pourront s'y adjoindre par la suite, puisque c'est quand même super bien. Alors, je rappelle, on peut s'inscrire sur cartoparty.montpel-libre.fr, cartoparty au pluriel, .montpel-libre.fr/inscription, évidemment montpellibre.fr pour toute l'actualité de l'association qui tient ses rendez-vous réguliers, que ce soit à Kawenga ou partout dans le département, pour bien porter la bonne parole du logiciel libre partout dans l'Hérault.
Bon, on n'a pas besoin d'être initié à la cartographie, hein, on n'a pas besoin d'être cartographe.
Un crayon, un papier
suffit, voilà,
pour démarrer.
Ça suffit largement. Si vous êtes en fauteuil roulant, ben venez, vous êtes les bienvenus. On aura la participation de la pharmacie Saint-Paul à la Mosson. En plus, c'est le quartier donc, qui nous prête généreusement deux fauteuils pour tester pendant une journée les conditions de circulation en fauteuil.
Le rendez-vous est pris à la Maison pour tous, Théo Larange, Théâtre Jean Villard, pour ceux qui... c'est la même adresse. Merci beaucoup Pascal, et puis à très bientôt dans Divergence Numérique.
Merci.
Et on précise que cette cartographie contributive du 19 janvier s'inscrit dans le cadre du programme Montpellier Territoire Numérique et du projet Open Data de la ville de Montpellier, qui vise à mettre à disposition gratuitement les données publiques afin de faire émerger la création de services innovants. Les mapping parties sont donc un excellent moyen de compléter les données de la ville sur l'accessibilité, par exemple, et devrait à terme permettre la création d'une application de calcul d'itinéraire dédiée aux personnes à mobilité réduite, ce qui serait plutôt bien.
Oui, tout à fait. Il y a déjà il y a Wheelmap qui existe comme application déjà, qui est assez sympathique pour avoir le transcript en fait de OpenStreetMap plus des commerces qui sont accessibles ou pas. Et c'est interactif, c'est-à-dire que vous êtes sur un commerce qui est pas notifié, ou en tout cas où son état n'est pas noté. Vous le testez parce que vous êtes sur place, vous donnez directement le résultat, et c'est déjà mis à jour, donc c'est absolument fabuleux.
Voilà, le fil musical, c'est toujours l'album d'Astronaut et Dario Scenario intitulé Metaforce, le nom du groupe. Orion 7, c'est l'album, c'est sous licence Creative Commons by NCND, et le titre qu'on écoute à présent, c'est Keepers.
Family first.
Yeah, c'est toujours Divergence Numérique, 153e émission. Et à présent, un petit tour vers une news pour toujours les amateurs d'images, plus précisément de photos sous Linux, avec un nouveau logiciel qui s'appelle LightZombie, un logiciel de traitement de photos sous les formats JPEG, TIFF ou RAW, qui a peu d'outils mais qui dispose de retouches locales et qui au départ en fait était un logiciel propriétaire de la société Lightcraft qui a été dissoute il y a un an ou deux. Les clients se sont donc retrouvés le bec dans l'eau, plus de mise à jour et plus de support pour les nouveaux modèles. Des passionnés ont donc lancé un projet un peu fou, LightZombie, un site qui depuis a disparu. Il s'agissait de rajouter une version récente de DC RAW et des fichiers nécessaires au dématrissage pour les courbes de base, comprenne qui pourra. Courant décembre 2012, un message est arrivé sur le site « Le Père Noël va être bon pour nous ». Et le 22 décembre, LightZombie devenait LightZone Project. Les auteurs de LightZone ont ainsi libéré leur code source sous licence BND. C'est la bonne nouvelle de la fin 2012 pour tous les utilisateurs de ce logiciel.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi à noter pour peut-être introduire nos agendas, j'aimerais bien qu'on parle de TuperVim. C'est un truc assez intéressant qui va se passer à Grenoble mercredi 16 janvier, qui est suite au succès de la première édition. La guilde des utilisateurs d'informatique libre du Dauphiné organise donc un nouveau TuperVim le mercredi 16 janvier à l'occasion d'un échange de trucs et astuces sur l'éditeur de texte Vim. Alors l'éditeur de texte Vim, c'est l'éditeur de base qu'on a sur les systèmes Unix. C'est le premier éditeur qu'on a sous la main pour éditer un fichier. C'est vraiment l'ancêtre de l'éditeur, disons, pas l'ancêtre de l'éditeur, mais en tout cas un des premiers éditeurs présents et qui est toujours vivant d'ailleurs. Et notamment, il se perfectionne pour supporter, par exemple, des fonctionnalités comme, par exemple, mettre en couleur quand on édite des fichiers texte, hein, des fichiers texte, et surtout pour des développeurs, où ça fait apparaître en couleur certaines fonctions, certaines variables. Si c'est du code HTML, ben, les mots-clés HTML sont colorés aussi, par exemple. Donc ça, c'est des évolutions qui n'existaient pas, évidemment, au tout début, puisque c'était juste pour modifier des fichiers texte, hein, comme il y en a beaucoup sous Unix. Et moi-même, j'ai connu, donc il fallait connaître les raccourcis, etc. Il n'y avait pas Emacs à l'époque, il y a eu Emacs après qui est venu. Mais en tout cas, c'est une bonne chose de voir que cet éditeur vit encore, et c'est bien. Et donc, ça sera, c'est aussi l'occasion donc, d'échanger là-bas des techniques et donc qui améliorent la productivité pour coder avec Vim, mais aussi avec d'autres éditeurs, et puis boire un coup, passer une bonne soirée entre barbus, non barbus, acceptés aussi, ou barbu UE non plus, à voir. Si vous pouvez venir avec quelque chose à boire, à manger, c'est encore mieux, dit-il. Donc c'est le mercredi 16 janvier de 19 à 22h dans les locaux de Cap Beria, 15 rue Georges Jacquet à Grenoble, dans l'Isère 38.
Voilà, Raphaël, si tu nous écoutes, c'est pas loin de chez toi.
Il fait partie de la guilde, mais...
Et oui, je sais.
Voilà.
Il sera-t-il voilà. Question. Petit clin d'œil, nos amis grenoblois.
Absolument.
Avant de passer au reste des agendas, des rendez-vous, un petit titre, This is Today, toujours extrait de Orion 7, l'album de Metaforce qui nous accompagne pour cette 153e Divergence Numérique. Thank you.
what you invest your time into. Live for today, yesterday swept away.
This is Today, toujours un extrait de l'album de Metaforce Orion 7 qui sort un album 2013, donc qui est tout chaud, tout neuf, tout droit sorti de ce net label dont on vous redonne l'adresse dustedwax.org. Et puis pas mal de rendez-vous évidemment sur l'agenda du libre.org, mais qui concerne toute la France, où il y a plein de rendez-vous. Peut-être pourrait-on noter éventuellement l'Assemblée Générale de l'AXUL qui se tient au Tolonnais, ce sera ce vendredi 11, mais allez faire un tour sur agendadulibre.org ou que vous soyez dans l'Hexagone, il y a pas mal de rendez-vous côté Montpellier, Montpellier Libre sur l'agenda de janvier.
Tout à fait, tout à fait. Nos agendas locaux, bien sûr. À noter aussi, par exemple, le lundi 21 janvier 2013, de 8h à 19h à Paris, Syntec Numérique qui organise les premiers états généraux de l'open source sous le haut patronage de Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée au PME, de l'innovation et à l'économie numérique. Donc lundi 21 janvier au centre Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy, ça va pas être très loin du ministère des Finances, tout ça.
Et à la même date, le 21 janvier toujours, et là ce sera en soirée, ce sera un petit peu comme le lundi 7, ce sera de 19h30 à 22h30 ce 21 janvier, un atelier SPIP à la salle de la poésie à la Maison du Libre, 9 rue de la Poésie. Seront abordés HTML, CSS, PHP, développement de plugins, notamment d'un plugin pour gérer des annonces. Ça, c'est dans le cadre des activités de Montpellier Libre pour ce mois de janvier. Et puis, les 15, 22 et 29 janvier de 9h à midi, les ateliers libres, Notion PC, atelier OpenOffice.org et LibreOffice à la médiathèque de Terran, dans le département.
Tout à fait, embarqué par Mathieu Beck, que nous saluons au passage, et il nous écoute ardemment. À noter aussi à Toulouse, le 24 janvier, une projection débat We Are Legion. J'ai pas ouvert l'intitulé, mais je pense bien que c'est évidemment dans les cinémas Utopia.
Et puis les 15, 22 et 29 janvier, après-midi, 14-16h, les ateliers libres, section GNU Linux, découvrir et installer Linux, initiation au logiciel libre, c'est à la MJC André Le Malraux à Castelnau, 10 avenue de la Moutte. C'est mignon, j'aime bien cette rue.
Rue de la Moutte, oui, près de la rue du Ballon, tu vois, hop. Donc, À Marseille, n'oublions pas l'install party le 26 janvier. Et puis saluons aussi la réunion à Brignoles mensuelle de nos collègues de Gulliver le 29 janvier.
Et puis on termine avec les 17, 24 et 31 janvier de 17 à 18h, atelier libre Notion PC. Ce sera atelier GIMP à la médiathèque de Terran, place du Ballon, comme tous les jeudis. Et puis le 11 janvier de 14 à 19h, les ateliers Point Libre, Linux, logiciel libre et thème, c'est à Kawenga, boulevard Louis Blanc à Montpellier. La permanence Linux et logiciel libre. De 17 à 18h, il y aura un atelier Blender. Et de 18 à 19h, présentation de Kawenga territoire numérique, comme tout les premiers vendredis du mois. Et puis un rendez-vous du Libre ce 17 janvier de 19 à 21h, rencontre et débat sur l'actualité du Libre, organisation d'événements locaux et culture et TIC, 12 rue Cartelet, ce sera à Perpignan. C'est plus loin, mais c'est sympathique.
Oui, nous avons des participants de Perpignan qui viennent nous voir pour les cartoparties, ça qui est assez intéressant là-dessus.
Et puis on va se quitter car le temps est parti, nous est compté. On se quitte avec un nouvel extrait du duo de Astronaut et Dario Scénario qui s'appelle Metaforce. L'album s'appelle Orion 7. C'est sous licence Creative Commons by NCND. Il est sorti en 2013 sur le label Dusted Wax. Et puis c'est Ci Serrano Sogni per noi, ce qui veut dire Sarano rêve pour nous en italien.
Bravo,
j'ai beau reste du lycée.
Bon linguiste.
On vous souhaite de rester libre tout au long de la semaine et on vous souhaite une belle après-midi, une belle nuit, une belle semaine à l'écoute des programmes de Divergence FM.
Et de vos radios préférées, bien sûr.
Radio Escapade et Divergence. Et bientôt Radio Larzac, dans très prochainement.
Super.